Métro, boulot, gynéco.
Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, l'association des gynécologues obstétriciens en formation. Aujourd'hui, Léa a le plaisir de recevoir Mathilde Côté, gynécologue obstétricienne du Québec. Récemment diplômée de son internat, elle séjourne en France pendant un an pour suivre une formation complémentaire à Lille. Au cours de cet épisode, elle va nous expliquer le déroulement de l'internat au Canada.
Salut Mathilde, on est super content de t'avoir sur notre chaîne là du micro des gynécos pour que tu nous parles un petit peu de l'internat au Canada et peut-être plus spécifiquement au Québec. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment s'organise ton internat, l'internat gynéco-obstétrique au Canada?
Oui, ça me fait super plaisir d'être là aussi. J'espère que j'aurai les bonnes réponses à vos questions. Alors, pour l'internat, ça s'organise de façon différente entre chaque université, mais au final, tout le monde a une formation qui s'équivaut parce qu'on a un gros examen à passer à la fin qui régit à travers le Canada. Donc, pour appliquer à la formation, c'est une plateforme qui est pan-canadienne. On peut choisir à quelle université on applique pour notre résidence et au bout de différents processus, on est sélectionné. L'internat partout au Canada, ça dure généralement 5 ans, sauf si on prend bon, des congés, maternité, quoi que ce soit. Et au Québec aussi, c'est organisé sous forme de stages, de blocs stages qui peuvent durer entre 1 mois, 3 mois, voire même plus longtemps, qui changent parfois d'hôpital. Parfois, ça peut être dans le même hôpital qu'un stage avant, mais c'est plutôt centré sur chaque sur-spécialité de la gynéco-obstétrique. Donc, on peut faire, par exemple, 3 mois d'urogynéco, suivi de 3 mois de grossesse à risque élevé, suivi, par exemple, de 6 mois de gynéco plus chirurgical, par exemple. Dans les dernières années, au Canada, ils ont instauré quelque chose qu'on appelle l'apprentissage par les compétences. Donc, le format de base, le schéma de base de stage par mois ou par 3 mois est resté le même. Par contre, maintenant, il s'agit de prouver qu'on acquiert certaines compétences. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on fait une hystérectomie, on envoie une petite demande à un de nos chefs qui nous confirme oui ou non, j'aurais été à l'aise que tu le fasses seul ou avec un peu d'accompagnement, avec beaucoup d'accompagnement. Et c'est le cas pour plusieurs compétences différentes qu'il faut réussir à accomplir à l'intérieur de ces 5 années. En commençant, par exemple, en première année à faire une histoire adéquate d'une maladie, par exemple, et à la fin de notre dernière année, il faut qu'il soit à l'aise de nous laisser faire toutes les chirurgies tout seul. Au Québec, ça fonctionne beaucoup par centre universitaire. Donc, par exemple, à Québec, où j'ai fait ma formation, il y avait 3 hôpitaux reliés avec l'Université Laval. Un hôpital où il y avait plutôt de l'obstétrique de 3e niveau, de niveau 3. Un hôpital où il y avait beaucoup de gynéco-oncologie de niveau 3. Et un hôpital où c'était plutôt de la gynéco-obstétrique de niveau 2 à 3. Mais qui nous permettait de voir un peu plus le reflet de la pratique réelle de gynéco-obstétricien ailleurs qu'en centre universitaire. Et on se promenait à travers ces différents centres et à travers ces différents milieux de stage.
OK. Et donc, ces compétences, elles sont nécessaires pour valider ton diplôme final.
Exact. Donc, pour valider le diplôme final, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir réussi toutes les compétences en question, parfois plusieurs fois. Il y a un comité qui revoit toutes les demandes de compétences et tout. Il faut aussi avoir l'approbation de notre programme de formation qui dit non seulement oui, elle a les compétences, mais on est d'accord avec le fait qu'elle les a. Et un examen national qui se fait à la fin de notre 5e année de formation. Maintenant, c'est rendu à l'automne de la 5e année de formation, qui est un examen de théorie sur 2 jours et un examen oral à la suite de mise en situation où on se fait évaluer par un panel devant nous qui nous pose des questions. Par exemple, vous voyez une femme diabétique enceinte, quelle est votre prise en charge, etc.
Et donc, au cours de ces 5 années, par contre, il n'y a pas d'examen théorique, c'est que de la pratique.
En fait, chaque programme est libre de décider s'ils veulent qu'il y ait des examens ou non. Alors, nous, notre programme à Québec, on avait un examen par année qui était calqué sur le type de l'examen de fin de formation pour nous pratiquer justement à répondre aux questions, un peu le format des questions qu'on pourrait avoir et tout. Et notre programme exigeait qu'on s'améliore d'année en année sans nécessairement le réussir, évidemment, parce qu'en première année, on n'est pas censé avoir toutes les connaissances de l'internat. Mais il n'y a pas d'exigence d'examen formel entre toutes les universités. Chaque programme a un peu le loisir de déterminer ce qui fait en sorte que tu poursuis ta formation ou non.
OK. Et juste, est-ce que tu peux nous rappeler, donc avant l'internat, comment s'organise? Est-ce que c'est un externat? Quelles sont les études avant l'internat?
Alors, il y a une différence entre le Québec et le reste du Canada parce que toutes nos études depuis le primaire, elles sont différentes entre le Québec et le reste du Canada. Mais grossièrement, une fois qu'on réussit à rentrer en médecine à l'université, qui varie entre l'âge de 19 et 20 plus 1, dépendamment de notre formation auparavant, eh bien, c'est entre 2 et 3 ans de cours à la fac, de cours théoriques. Et ensuite, c'est 2 ans d'externat où on est en stage tous les jours. Alors, c'est des stages de prise en charge clinique, mais dès qu'il y a un temps mort ou dès qu'on prend en charge quelque chose qu'on ne connaissait pas en tant qu'externe, en fait, c'est attendu que les internes, ils fassent beaucoup, beaucoup d'enseignements aux externes. Donc, s'il y a un temps mort, ben, ça sera un cours sur, par exemple, les thrombophilies. Puis ensuite, si on voit un retard de croissance pour la première fois, ben, moi, je vais leur expliquer les Doppler. Donc, c'est apprentissage par l'exemple. Et idéalement, ils relisent leurs notes de fac de med avant d'arriver en stage, mais c'est variable.
Et donc là, on revient à l'internat. Au cours de votre internat, est-ce que vous avez la possibilité de vous spécialiser ou c'est quelque chose, c'est un internat gynéco-obstétrique qui est généraliste et la spécialisation vient après?
Alors, il y a moyen de spécialiser un peu selon nos intérêts, c'est-à-dire qu'on peut orienter à avoir, par exemple, plus de stages d'oncologie parce qu'on aime plus l'oncologie ou plus de stages d'obstétrique parce qu'on aime plus l'obstétrique. Reste que la base, le squelette de la formation, il est le même pour tous parce qu'il y a ces compétences dont on se parlait tout à l'heure qu'il faut acquérir. Mais il y a, dépendamment des programmes, par exemple, 2 à 3 mois par année qui sont un peu plus libres et on peut leur demander de nous rajouter différents sous-types de stages pour ajouter à notre formation. Par contre, quand on termine en tant que gynéco-obstétricien au Québec et au Canada, on est techniquement tous pareils, tous spécialisés dans les mêmes choses. Mais en réalité, on a chacun nos dadas et on a déjà un petit peu peaufiné le truc.
OK, et la spécialisation, elle vient après l'internat?
Exactement. Donc, la majorité des gens qui vont travailler en centre universitaire, enfin, toutes les personnes qui vont travailler dans un centre universitaire au Canada doivent faire une formation complémentaire de 1 à 2 à 3 plus 1, qui apporte quelque chose à leur équipe future. Généralement, si c'est une surspécialité comme urogynéco, médecine fœto-maternelle, l'oncologie et tout, bien, il y a même des programmes agréés par le Collège royal canadien au Canada qui nous permettent d'atteindre les compétences requises pour devenir ces surspécialités. Pour le reste, si on n'est pas un surspécialiste particulier et qu'on veut travailler en centre universitaire, comme moi, ben, il faut réussir à convaincre notre future équipe que ce qu'on va aller chercher ailleurs est pertinent pour eux. Et si on va travailler dans un centre secondaire ou en région plus éloignée, ce n'est pas nécessaire d'aller faire plus parce qu'en fait, le but quand on n'est pas en centre universitaire, c'est d'être capable de s'occuper idéalement d'un peu tout le monde.
OK, super. Et alors, quand on est interne de gynéco-obstétrique, quelle place on a dans l'équipe? Quel degré d'autonomisation on te donne? Comment ça se passe?
Je dirais que ça varie beaucoup entre les équipes, entre les stages. Mais grossièrement, ce qui se passe, c'est que quand on est, on appelle résident junior, donc dans les premières années d'internat, première, deuxième, voire même troisième, il n'y a pas trop d'attente en termes de gestion autonome du truc. On s'attend à ce que tu sois capable, un, de reconnaître tes limites, deux, de reconnaître les trucs plus urgents et tout, mais il faut toujours en parler avec un chef. Quand on est plus senior, donc R4, R5, 4e, 5e année, il y a de plus en plus de trucs qu'on fait seul. Par contre, pour opérer en salle d'opération, c'est exigé que le chef il soit toujours présent. Il n'est pas obligé d'être activement en train d'opérer, mais il faut qu'il soit dans la pièce. Même chose pour les accouchements et tout, parce qu'on fait des accouchements physio, nous, au Canada et au Québec. C'est généralement suggéré et fortement encouragé que le chef y soit sur place, entre autres pour des raisons médico-légales. Par contre, généralement, on est toujours premier opérateur quand ça s'applique. Évidemment, en première année, première journée de stage, ils ne vont pas te faire faire de l'endométriose de stade 4. Mais plus on est senior, plus c'est nous qui sommes premier opérateur avec le chef qui assiste. Même chose, les césariennes, dès à la fin de notre, même la moitié de notre première année d'internat, généralement, on est pas autonome, mais quasi autonome à les faire. Ceci dit, on est toujours avec le chef qui nous appuie, mais on a tellement un haut débit, parce qu'on n'est pas beaucoup dans les programmes, que rapidement, en obstétrique, on devient assez à l'aise. Ceci dit, il faut toujours parler avec un chef avant de libérer une patiente de l'hôpital, avant de libérer une patiente de l'urgence. Donc, oui, il y a l'autonomie, mais on est habitué d'avoir notre petit filet de sécurité.
Tu parlais de haut débit, c'est parce qu'il y a un nombre d'accouchements qui est très important dans l'hôpital dans lequel tu étais?
Oui, exactement. En fait, c'était pas... oui, c'était assez important. On était à 4500, voire 5000 naissances par année. Mais c'est surtout, en fait, que généralement, on est le seul interne présent en obstétrique. Donc, toutes les césariennes qui se font à tous les jours, c'est nous qui les faisons si on est présent dans l'hôpital. Donc, ça s'accumule assez vite.
Du coup, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément un interne dans chaque stage?
Non, exact. Donc, parfois, rarement. Les stages les plus demandants, genre l'unité des naissances d'obstétrique, on s'arrange tout le temps pour qu'il y ait au moins une personne, mais il pourrait y avoir personne pour les salles d'opération de gynéco et les chefs, ils s'organiseraient entre eux, ils s'assisteraient entre eux. Donc, on a une belle place pour l'enseignement parce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas être partout à la fois. Par contre, quand on est présent, c'est sûr que c'est du débit, c'est on court partout et on apprend assez vite et sur le tas, entre gros guillemets. Donc, à titre d'exemple, moi, quand j'ai terminé, on était, je crois, 15 ou 16 résidents en tout dans le programme de la Ville de Québec. On était sur 3 hôpitaux différents dans tous les services. Donc, évidemment, on était 1 à 2 maximum dans les gros services. Il y avait beaucoup de services qui n'avaient personne. Par exemple, en urogynécologie, ben, il n'y avait pas toujours quelqu'un. Mais c'est différent entre chaque université et c'est différent d'année en année parce qu'en ce moment, ils acceptent un petit peu plus de personnes que quand moi, j'étais là dans le programme à Québec. Donc, ça s'améliore.
C'est un nombre fixe d'internes qui est accepté?
Alors, c'est le gouvernement qui décide combien d'internes seront acceptés dans quelle université, à quelle année. Mais généralement, ils prennent... mon année, ils n'en ont pris que 2 à Québec. Mais généralement, ils en prennent 4 à 5 par année par centre universitaire. Et on a 4 centres universitaires au Québec, incluant McGill, qui est anglophone.
OK. Et alors, du coup, pour les gardes, comment ça s'organise?
Alors, chaque centre et chaque université fait différemment. Mais nous, chez nous, en fait, c'est... 2 sortes de garde. On peut être soit en genre d'astreinte à la maison, c'est plutôt quand on est en gynécologie et pas en obstétrique, ou alors en garde sur place, plutôt quand on est en obstétrique. Les gardes sur place à l'hôpital, et ça c'est la loi pour tous les résidents, si on est sur place à l'hôpital, c'est maximum 12 heures, et on peut en faire maximum 6 par mois. Si on est en astreinte à la maison, c'est des gardes de 24 heures, souvent c'est qu'on l'enfile après notre journée, et c'est maximum 9 par mois. Ça implique qu'on n'a pas de repos de garde après les gardes de 24 heures, sauf si, par contre, on a été présent à l'hôpital pendant genre toute la nuit. C'est négociable avec l'équipe qu'on prenne notre lendemain. Pour les gardes de 12 heures, et on a notre repos, si c'est une nuit, la journée d'avant et la journée d'après. Donc, si je fais la nuit du vendredi, ben, je ne rentre pas au travail le vendredi dans le jour et ben, je serai off le samedi, évidemment. Voilà.
OK. Et la rémunération, un ordre d'idée?
Alors, la rémunération, elle fonctionne avec l'année de résidence dans laquelle on est. C'est une échelle salariale que vous pouvez trouver sur Internet. Mais c'est pas trop mal. Il ne faut pas calculer le salaire horaire, mais en termes de salaire, ça va. Les gardes, elles ne sont pas payées plus, par contre, peu importe combien on en fait. C'est inclus dans le salaire de base. L'idée étant que, en fait, on ne sera pas payé plus qu'on fasse plus de gardes, mais on ne voulait pas que les gens qui en fassent moins soient payés moins. Donc, plus concrètement, on parle d'environ 50 000 $ canadiens par année au début. Ça augmente, je dirais, d'environ 5 000 à 7 000 par année à la suite brut.
OK. Et donc, après l'internat, quelles sont les différentes possibilités d'exercice que vous avez avec votre diplôme de gynéco-obstétrique?
Alors, on est gynéco-obstétricien si tout s'est bien passé durant l'examen. Donc, on peut pratiquer partout techniquement au Canada, même si notre diplôme, il est par exemple québécois. Ça nous permet d'être gynéco-obstétricien en hôpital ou en cabinet. Au Canada, il y a l'accès universel aux soins de santé aussi. Donc oui, il y a le privé, mais j'en parlerai pas. Et donc, généralement, on est affilié à un hôpital pour pouvoir y faire des accouchements, y faire des chirurgies. Et on peut avoir soit notre bureau de suivi dans une clinique à part ou au sein de l'hôpital. Ça dépend des hôpitaux, ça dépend des villes. On fait généralement du suivi soit de première ligne d'obstétrique, donc une femme enceinte qui aurait besoin de quelqu'un qui suit sa grossesse pourrait demander à un obstétricien. Ou généralement plutôt des avis. Donc justement, être suivi par son médecin généraliste. Il y a beaucoup de femmes suivies par les médecins généralistes au Québec. Il y a un retard de croissance. Ou finalement, elle se rend compte qu'elle a un problème de santé ou un diabète ou quoi que ce soit qui apparaît dans sa grossesse. Eh bien, ils vont nous demander en consultation et nous, on va prendre en charge le suivi ou alors offrir un plan de suivi que le médecin peut suivre. Pour la gynéco, généralement, on est de la deuxième ligne. Donc, les frottis et tout, c'est fait par les médecins généralistes idéalement. Et nous, on ne voit que, par exemple, s'il y a un souci, on le voit en colposcopie pour la suite. Même chose, s'ils ont, par exemple, des ménorragies, ben, on aime bien que le médecin l'ait essayé la pilule ou quelque chose avant. Et s'il y a un échec ou si d'emblée, il se rend compte qu'il n'y a pas les connaissances requises, ben là, il nous adresse une demande de consultation et on reçoit la patiente. Donc, les patientes, elles ne peuvent pas simplement arriver chez le gynécologue, sauf quand elles sont enceintes. Après, il y a une proportion de finissants qui décident de travailler en centre universitaire et qui va donc faire des surspécialités comme on s'est parlé tout à l'heure. Mais reste qu'on travaille en équipe et ils font aussi de la garde ou parfois même de la deuxième ligne, même en tant que surspécialiste, pour aider l'équipe et y avoir des patientes aussi, comme il n'y a pas beaucoup de gynéco-obstétriciens au Québec.
Et gynécologue médical, est-ce que c'est un diplôme qui existe?
Alors, la gynéco-médicale, pour nous, ça fait partie de la gynécologie. Par contre, il y a certains axes, si j'ai bien compris, des gynécomèdes ici qui sont repris par les médecins. Mais après, nous, en fait, c'est une des sur-spécialités de faire de l'endocrinologie de la reproduction. Donc, nous, ce sont des fertologues, on appelle, et ils font donc leurs 2 années de formation de plus pour être certifiés pour pouvoir faire de l'in vitro et tout. Mais le gynéco-med, sinon, ça fait partie de notre formation. On en voit, j'ai vu des patientes ménopause, j'ai vu des pubertés précoces, j'ai vu tout ça, moi, dans ma formation usuelle.
Ok, super intéressant en tout cas, Mathilde. Comme tu es actuellement en France en stage, est-ce que tu pourrais aborder avec nous un petit peu les différences que tu as pu constater entre l'internat de gynéco-obst et les pratiques aussi, surtout entre le Québec et la France?
Ouais, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est moins différent que ce que j'aurais cru, à part les noms de médicaments. J'arrête pas de prescrire des trucs que personne ne comprend. Mais sinon, je crois qu'il y a peut-être une plus grande place à l'autonomie au niveau des gestes en France. Donc, moi, je regardais les internes, des internes plus jeunes, par exemple, que moi, ce que j'étais quand je faisais un geste, je trouvais qu'il avait l'air plus à l'aise ou à tout le moins plus en contrôle de son geste, peut-être. Par contre, je trouve que de notre côté, au Québec, on avait peut-être un peu plus d'enseignement purement théorique durant notre internat. Sinon, grosse différence, ben, c'est en obstétrique. Nous, comme on fait de la grossesse physio aussi, on s'occupe des accouchements physio. Il y a des médecins qui font des accouchements et qui font des suivis de travail physio, pas la majorité. Et sinon, en centre universitaire, c'est les gynéco-obstétriciens qui font la première ligne. Et donc, ils reçoivent les patientes, évaluent leur grossesse et tout. Et on les voit à chaque heure, heure et demie durant le travail. On s'assure que ça dilate, que le cœur reste beau et tout. Il n'y a pas de sage-femme sous le même titre qu'ici. Il y a des sages-femmes au Québec, mais c'est complètement différent. Ils font des suivis hors hospitalier de grossesses strictement non pathologiques. Ils accouchent en maison de naissance ou à la maison, c'est différent. Nous, ce qu'on a, c'est des infirmières, si ça fait longtemps qu'elles sont là, vachement spécialisées, mais qui n'ont pas non plus les mêmes droits de pratique. Donc, techniquement, elles ne peuvent pas prescrire le syntho, elles ne peuvent pas prescrire d'un médicament. Donc, on est très impliqués, même dans les accouchements physio. Pour ce qui est des instruments, c'est pareil, sauf les spatules. J'en ai jamais vu ici encore, j'ai bien hâte d'avoir. Mais nous, on a ventouses et forceps aussi, on fait les césariennes. Les techniques chirurgicales, pour moi, celles que j'ai vues, ça se ressemble. Je n'ai pas vu beaucoup de gynéco-chir encore depuis que je suis ici, par contre. L'autre différence que j'ai pu dénoter, c'est au point de vue de l'échographie obstétricale. Dans les centres où il y a beaucoup de débit, donc les centres universitaires au Québec, il y a des technologues en échographie qui sont formés pour faire d'échographie en tout genre, et plus spécifiquement en obstétrique, qui vont faire les échos d'abord pour les patientes, et l'obstétricien va revoir les images et refaire certaines images clés. Par exemple, si c'est une anatomie du deuxième trimestre, il va repasser sur le bébé vite, il n'y aura pas besoin de prendre le temps de faire la photo parfaite. Et aussi, généralement, il refait un petit bout d'anatomie du cœur, du cerveau, comme c'est ce qui est le plus complexe, par exemple. Mais il y a des technologues qui sont même certifiés autonomes pour faire des premiers trimestres et faire des croissances. Donc, techniquement, on revoit les images par acquis de conscience, mais elles peuvent laisser partir les patientes en ayant toute confiance en leurs images. Après, en région, quand il y a moins de débit, moins de patientes enceintes, la majorité des gynéco-obstétriciens, ils font leurs propres échos. Par contre, ils vont avoir leur journée, par exemple, le jeudi, ils font 20 échos et bonne journée.
Ok, c'est super intéressant en tout cas de voir ces différences et ces ressemblances aussi également.
Ouais.
Merci beaucoup Mathilde en tout cas de nous apporter toutes ces informations sur l'internat de gynéco-obstétrique au Canada et plus spécifiquement au Québec. Je te souhaite un bon stage en tout cas.
Merci de m'avoir reçu. C'est toujours intéressant je trouve de voir les différences mais surtout les ressemblances entre nos deux pays. Donc, si quelqu'un veut venir faire un tour chez nous, on n'est pas trop méchant.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.